Ce n'est pas le cas.
Et encore moins pour les canards, d'ailleurs.
Voilà, bon, les...
Non, enfin, ils sont plus.
Faut, ouais, les canards, faut pas les nourrir. De toute façon, que ce soit des canards sauvages,
oui, mais enfin, c'est plutôt des
dans les parcs,
ils sont herbivores essentiellement.
Oui, aquatiques, microscopiques. Là,
ça dépend des espèces, mais si on prend le canard calvaire, il est vraiment strictement herbivore. Donc c'est vrai que le pain n'est pas.
Et ça n'apporte rien, quoi. Ça n'apporte rien.
Non, au contraire, c'est même mauvais, je dirais, pour même pour l'espèce. Il y a eu des études qui ont été faites en Angleterre qui ont montré que normalement, dans le bec d'un canard, il y a les espèces de fanon, enfin des
filtres, oui.
Et on s'aperçoit au fur et à mesure des générations que ce filtre, enfin que l'espace entre deux morceaux de ce filtre s'écarte de plus en plus, ouais. Parce qu'il a plus besoin de filtrer les petits éléments, on lui donne des grands éléments, donc il y a une modification qui se fait au cours du temps parce que son alimentation change.
Et comment on lui donne plus à manger, en fait il est pas bien.
Pardon?
En fait, faut arrêter de donner à manger du pain.
Et
comment se fait-il que c'est pas plus connu que ça, il vaut mieux pas donner du pain?
Bah, ça fait toujours.
C'est pour attirer.
Parcs, on met souvent des panneaux, il interdit de nourrir les animaux. Mais bon, comment éviter une maman ou une mamie de lancer du pain et que le canard vienne tout près du petit enfant qui regarde le canard avec des grands yeux?
Oui, et puis bon, on passe vraiment pour le vilain petit canard. Si on vient expliquer aux parents,
le fait
de ne pas
nourrir les pigeons, de ne pas nourrir les goélands,
ne pas nourrir les requins.
On aime bien les avoir près de nous, mais
c'est encore une fois le plaisir personnel de l'homme qui passe au-dessus. Hein, mais bon.
Après, c'est très souvent le premier réveil aussi à la nature pour les enfants. Mais c'est vrai, il y a d'autres façons de découvrir, ça je suis tout à fait d'accord. Bah après, il y a une différence, je crois, entre donner deux, trois petits bouts de pain. Moi, je sais que sur un lac, il y a un boulanger, tous les jours, il ramène la fin de son stock, quoi. Mm. Et là, c'est des kilos et des kilos de pain.
Donc, ça se voit tous les week-ends aux fortifications de Berg. Hein. Mm. Ah, non, non. Radio Allenspiegel 91.8, on arrive à l'heure de l'émission. Et traditionnellement, c'est l'heure de faire quelques annonces publicitaires. Pour la radio Eulenspiegel, en l'occurrence mardi, demain, de 20h à 22h, pardonnez la prononciation, de Cosinon avec Teddy et François. Samedi prochain, 12 octobre, de 10h à midi, l'émission de l'Institut de la langue régionale flamande. Dimanche prochain, donc le week-end, de 13h10 à 20h, c'est l'émission Le Trou Perdu, qui recevra Europerf, grandeur et décadence d'une entreprise locale. Ça ne va pas être une émission très rigolote, ça. Et puis enfin, je dois vous annoncer, le mercredi 23 octobre de 18h10 à 21h, Monique, dans l'émission Post-Café, qui va recevoir l'artiste Christian Delagrange. Vous êtes toujours avec l'émission Le Cri du Kévit sur les oiseaux en hiver, et là, un hymne à la nature, ou plutôt il s'excuse. Alain Souchon.
Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine, les enfants. Je vois lancer au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide. Pardon. En regard.
citron jaune. Pardon la flore, pardon la faune. Le jour se rêve sur les légumes, les enfants sur le bitume. Terre jolie terre, notre mer volante, avec nous dans le ciel et les étoiles filantes. Pardon. Colline fatiguée, pleine, plate, pleurez votre peine de nitrate. Pardon. Pour cette flotte plastique bleue qui prend la mer pour les millénaires. Jolie terre, notre mer volante, avec nous dans le ciel et les étoiles filantes. Terre, jolie terre, notre mer volante, avec nous dans le ciel et les étoiles filantes. Pardon.
Alain Souchon qui demande pardon. Qui demande pardon de la part de l'humanité, mais il ne suffit pas de demander pardon. Et dans l'émission L'écrit du Kevit, à laquelle vous assistez, nous parlons des oiseaux en hiver et on évoquait les différentes solutions, interventions humaines. Comment venir en aide? Alors, en cas d'ultime nécessité, hors antenne, on discutait, nous discutions entre nous, savoir à partir de quel moment faut-il réagir. Bon, pour mon cas personnel, je disais que j'attendais plusieurs jours. En cas de gel, attendre que l'eau est bien gelée, puis une réaction. Alors c'est comme ça, un feeling, mais il n'y a rien de scientifique.
Il n'y a rien, il n'y a aucune règle, de toute façon, je pense, qui est évidente à donner. Donc, après, ça revient. Enfin, la question se pose toujours. C'est pas parce qu'on donne à manger aux oiseaux en hiver que les populations d'oiseaux vont pouvoir survivre à tous les... Enfin, c'est pas parce qu'on nourrit 10 mésanges dans son jardin que l'automne, au printemps d'après, on aura plein de mésanges dans la région parce qu'on aura donné à manger. Le plus gros des troupes de mésanges se nourrit quand même sans l'aide de l'homme. Donc après, j'ai envie de dire, c'est toujours presque un plaisir personnel que de donner à manger aux oiseaux l'hiver. C'est pas une nécessité pour la sauvegarde de l'espèce, mais c'est... Moi, je donne à manger aussi parce que je trouve que c'est super beau de voir tous ces oiseaux à proximité. Mais c'est pas ça qui fait qu'on sauve les oiseaux. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que si une espèce devait son seul salut à la présence de l'homme, ça serait triste.
Alors, on disait aussi hors antenne, hein, il y a certains extrémistes du genre qui considèrent qu'il faut vraiment laisser faire la nature et que... Même s'il y a des oiseaux qui sont plus faibles, ben ça permettra aux prédateurs
et aux plus forts de prendre leur place. C'est une théorie, alors ça se discute, hein, même au sein des ornithologues, tout le monde n'est pas d'accord. Effectivement, si les oiseaux n'arrivent pas à se nourrir tout seuls l'hiver, c'est qu'ils sont faibles, c'est qu'ils n'ont pas leur place dans la nature. C'est des théories que moi personnellement je ne la conçois pas, après voilà, il y a des personnes qui la pensent. Qui trouvent du coup que donner à manger aux oiseaux l'hiver, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Il n'y a pas de règle non plus. Enfin, je ne vais pas les juger, c'est les gens qui pensent ça, mais je trouve que l'ornithologie, c'est aussi avant tout un plaisir pour l'observateur et de pouvoir observer les oiseaux dans son jardin, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et c'est souvent aussi les premiers éveils à la nature, c'est souvent ça qui fait que on aura envie de s'investir dans d'autres actions, envie de faire autre chose, envie de s'intéresser à ce qui bouge autour. Et c'est ça qui est intéressant, je pense.
Bon, pour en revenir à la pratique, il y a quand même, on l'a évoqué, les régimes alimentaires ne sont pas les mêmes pour toutes les espèces. Donc,
non, ils ont la faculté pour certaines d'entre elles de changer.
Au niveau de l'intervention humaine, ça peut paraître plus délicat. Est-ce que les produits vendus dans le commerce, où on vous dit valables pour toutes les espèces, enfin c'est comme ça, hein, sur la publicité, où on représente même certains oiseaux, mais il y a des erreurs.
Oui, bon, c'est vrai qu'il y a certaines espèces qui vont préférer certains types de nourriture. Par exemple, là, j'ai le type de graine le plus courant qu'on trouve dans les préparations, c'est la graine de tournesol. Bon, là, c'est fort apprécié par les mésanges, les verdiers, les pinsons, les moineaux, les chardonnerets. Les cacahuètes, on voit souvent aussi des colliers de cacahuètes. Là aussi, c'est pour, par exemple, les mésanges ou les piques. Les piques aiment bien aussi ce genre de nourriture. Il y a aussi ce qu'on voit de plus en plus souvent, bon, les pains de graisse végétale sous forme de boules ou autre.
Qu'on peut faire soi-même, d'ailleurs.
Voilà, oui. C'est à destination des piques, des mésanges, des rouges-gorges et des merles. Et bon, les fruits qu'on peut leur donner, pommes, poires, là, ça serait à destination des mères, des grives.
De préférence, un peu.
Gorge,
un peu.
Ouais, ouais, un peu toil.
Un peu toil.
Bien mûr.
Bien mûr.
Quand tu les mets sur le compost, quoi. Bien mûr comme quand tu les mets sur le compost.
Bah, oui, ouais, ou même avant aussi.
Ouais, ou s'ils sont tombés, tu les laisses là et puis les merdes s'en occuperont. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Voilà.
Après, j'ai envie de dire, c'est toujours plus intéressant si vous donnez à manger, c'est de diversifier la nourriture. Comme ça, vous êtes sûr au moins de pouvoir attirer un maximum d'espèces. Selon la nourriture que vous donnez, il ne faudra pas la donner de la même façon. Je pense, par exemple, les mésanges, elles seront plutôt arboricoles, donc elles vont plutôt se nourrir dans les arbres. Si vous mettez des cacahuètes au sol, il y a peu de chances qu'elles vont être mangées par les mésanges, ou elles vont plutôt préférer celles qui sont dans les arbres. Si vous donnez de la nourriture plutôt pour les rouges-gorges, les accenteurs, donc ce sera plutôt des oiseaux comme les moineaux qui vont plutôt se nourrir au sol, faites très attention si vous avez des chats. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si vous mettez de la nourriture trop facilement accessible pour qu'un chat puisse se les nourrir, j'ai envie de dire que ça sert à pas grand-chose, les oiseaux vont très très vite se passer le mot, et votre table de nourrissage va très vite ne va pas servir à grand-chose. Ils vendent maintenant il vaut mieux mettre une table de nourrissage à 1 mètre, 1,50 m, ça se vend dans le commerce, vous mettez une simple planche en bois avec des petits trous pour laisser l'eau passer quand il pleut, c'est suffisant.
Vous pouvez faire une rapide description de l'accenteur mouché, hein, c'est ça ?
Alors l'accenteur mouché, on l'appelle en néerlandais, c'est Herenmus. C'est le moineau de la haie. Alors il ressemble un petit peu au moineau, notamment le dos. Il est relativement petit, un petit peu plus petit, un petit peu plus fluet que le moineau. La différence, c'est qu'il a vraiment la tête grise avec des petites taches brunes. On le confond, quand on n'a pas l'habitude, on le confond généralement avec le moineau. Il est beaucoup plus souvent caché, beaucoup plus souvent au sol, beaucoup moins bruyant. Son cri, il est vraiment très très fin, très... Il y a très peu de gens qui le connaissent. Et il faut mettre souvent des années pour savoir le reconnaître et l'identifier. C'est aussi souvent un oiseau qui va être beaucoup plus solitaire que les moineaux vont être beaucoup plus souvent en groupe.
En groupe, ouais.
Il est toujours au sol, mais c'est vraiment la tête grise qui est différente.
Et mouché parce que c'est un mangeur de mouches et de moucherons.
On a quelques règles encore à rappeler par rapport au don de nourriture.
Ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par exemple les boules de graisse dans des filets, bon, ça sera, comme on disait, plus à destination des mésanges parce qu'elles peuvent s'accrocher, elles sont plus acrobates qu'un rouge-gorge. Bon, si on veut vraiment éviter que d'autres oiseaux s'en servent, on peut faire en sorte que les autres oiseaux ne se posent pas sur la boule. Par exemple, il y a le truc de mettre un goulot de bouteille en plastique au-dessus. Ça le protège à la fois de la pluie et ça empêche que les oiseaux se posent dessus. Ils sont obligés de passer par en dessous. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est quand on commence à nourrir les oiseaux, il faut pas interrompre brutalement parce qu'ils s'habituent à venir manger à la même mangeoire ou à 2-3 mangeoires qu'ils ont dans leur secteur. Donc si on arrête le nourrissage brutalement, ils risquent d'avoir du mal à trouver un autre site d'approvisionnement. Et ensuite, quand on a fini le nourrissage en fin d'hiver, quand les grands froids sont passés, il faut diminuer progressivement pour qu'ils cherchent eux-mêmes d'autres sources de nourriture.
Alors, ça oui. paraît logique, mais ne jamais donner de nourriture variée, de nourriture moisie.
Oui, il faut suivre quoi, ce qui est distribué.
Et nettoyer les mangeoires aussi pour oui. éviter les maladies. Si vous voyez des fientes dans la mangeoire, pas hésiter à nettoyer avant de remettre de la nourriture.
Bien étudier l'endroit où vous mettez la mangeoire, hein, surtout par rapport au chat.
Alors par rapport au chat, donc plutôt en hauteur. Si vous le mettez sur une zone qui est totalement nue, donc il n'y a que de l'herbe, mettez-la plutôt au centre. Si vous avez par contre des haies, mettez-les plutôt à proximité de la haie. Ça permettra aux oiseaux vraiment de se cacher. Et surtout, si vous avez des arbustes denses, épineux, difficilement pénétrables, préférez de les mettre au pied. Pensez aussi toujours à les mettre plutôt côté sud, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Donc ça évite évidemment que ça moisit et ça moisit plus rapidement. Des petits conseils encore, beaucoup de personnes donnent des pâtes ou du riz à éviter aussi, c'est pas forcément ce qui est de mieux, et tout ce qui reste de cuisine de toute façon, à part des animaux comme les rats, il y a très peu d'animaux qui vont vraiment s'en délecter. Surtout éviter la nourriture salée, ne jamais donner d'aliments salés à des oiseaux. Ou même des hérissons aussi, si vous donnez à manger aux hérissons, bon, ce qui est rare, mais on ne sait jamais. Vraiment éviter les animaux salés.
Les aliments salés,
pardon.
Effectivement. Les animaux salés, c'est pour nous.
Pardon.
Quoi d'autre sur les recommandations nourriture?
Ben, on parle du chat qui pourrait profiter de l'aubaine. Il y a aussi les rapaces qui se nourrissent de petits oiseaux qui pourraient en profiter. Mais bon, là, je vois pas de parade. C'est la loi de la jungle. Faut bien qu'ils mangent aussi.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'il y a certains. Bon, par exemple, les éperviers peuvent vite comprendre le truc, voir qu'il y a un rassemblement de casse-croûtes à certains endroits, donc en profiter.
Ça vous permet d'observer l'épervier plus facilement.
Voilà.
Il va plutôt chasser en vol, l'épervier, non?
Il va chasser en vol, mais dès que les oiseaux le voient, généralement ils ont peur, ils s'enfuient, ouais. Et c'est là qu'il en profite.
Ouais, mais bon, le merle il a moins de chance. Hein. J'ai déjà remarqué deux fois. Hein. Je sais pas, c'est dû à son vol, mais.
Il a un vol beaucoup
trop
plus
lourd.
Trop rectiligne. Ouais.
Et ça dépend aussi après de la distance de fuite. Les mésanges, par exemple, elles vont partir très très vite, elles vont tout de suite se cacher. Le merle, il a tendance à vraiment sonner l'alarme et de rester le plus longtemps possible. Et si vous avez des grandes baies vitrées, encore un dernier conseil, n'hésitez pas à mettre des formes pour montrer aux oiseaux que c'est une baie vitrée.
Oui, mais ça c'est valable toute saison.
C'est valable en toute saison,
ouais,
effectivement.
D'accord. Ouais, ouais.
Mais c'est encore plus souvent vrai en période de nourrissage, puisqu'il y a une plus forte densité d'oiseaux à proximité.
Alors moi j'ai pas des grandes baies vitrées, mais ils se prennent les petits carreaux quand même.
Ouais. Alors ça dépend essentiellement. En fait, l'oiseau ne voit pas les carreaux. Donc il suffit que vous mettez par exemple des plantes vertes de l'autre côté. Ils veulent aller se poser dedans et forcément ils se font.
J'ai pas de plantes vertes non plus.
Le toit.
Donc je sais pas, ou alors le reflet peut-être d'un arbre ou. Non, bah.
Ah, les reflets, ah oui.
Un reflet, ça suffirait?
Un reflet doit pouvoir suffire, ouais, je pense. Parce que des fois, on voit les oiseaux se bagarrer dans les tôles de voiture en pensant que c'est un autre oiseau alors que c'est leur propre image.
Ouais.
Les oiseaux,
ou alors, tu ne nettoies pas les carreaux.
Ah mais non, mais ça c'est déjà ouverte. Le cas, mais ça les empêche pas de se taper la tête dans le carreau quand même. En tout cas, ma fenêtre qui est en haut. Quoi.
Radio Aline Spiegel, l'émission Cri du Kivit est animée par Outland Nature. Et on retrouve un vieux morceau, vous allez reconnaître.
We'll see. Oh, see, Sarada. Baby, see. What you have done. Oh, Lord, see. Oh, see, Sarada. Baby, see. What you have done. Yeah, you know you made me love you. Na, na,
chill thaw. Coming home at all. It's alright. I see, Sarada. Baby, the moon is shining bright. I see, Sarada. Wait, oh, you know the moon? I know it's shining bright. Everything I know would be alright. Oh, what I see.
Johnny Rivers, bien sûr, pour CC Rider, une version live au fameux club de Los Angeles, Whiskey à Gogo. Ça date de 1967 et ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi péchu. Vous êtes bien sur Radio Alan Spiegel avec l'association Outland Nature qui présente l'émission Le Cri du Kevit. Nous avons évoqué jusqu'à présent le large sujet des oiseaux en hiver et on vous fait un petit rappel là pour vous dire les oiseaux que vous pouvez voir en hiver dans votre jardin.
J'y pense, on n'a pas parlé du Kevit.
Ah oui, on n'a pas parlé du kivit.
On ne pourra pas le voir dans le jardin, lui, mais...
Le kivit, pour vous rappeler, c'est ce très bel oiseau qui est le vanneau huppé. Alors, dans notre jardin.
Alors, dans le jardin, enfin dans notre jardin, il faut savoir qu'on peut à peu près trouver facilement une vingtaine d'espèces d'oiseaux, ce qui est déjà pas mal. Moi, habitant Rexpo, j'ai une fois fait l'inventaire de toutes les espèces que j'avais au moins vues depuis le jardin. Je crois que j'étais arrivé à peu près 150 espèces. Donc, ça concerne aussi les oiseaux que je vois que voler au-dessus, comme les vanneaux huppés que je vois depuis le jardin, mais qui ne s'y arrêteront jamais. Donc, on a quand même beaucoup d'oiseaux qu'on peut voir dans le jardin. C'est essentiellement les oiseaux qu'on va retrouver dans les milieux bocagers ou dans les milieux de bois. On ne trouve quasiment jamais les oiseaux strictement agricoles, genre bergeronnette printanière, donc de toute façon l'hiver on l'a pas chez nous, mais l'alouette des champs, le pipi de farlouze, la perdrix, le tarier-pâte sont quand même des oiseaux qu'on trouvera jamais dans nos jardins. On ne trouve évidemment rarement les espèces vraiment strictement aquatiques, forcément à moins d'avoir un grand étang, mais c'est pas
donc le dans nos jardins on peut
donc
voir.
Dans nos jardins on a les oiseaux essentiellement des forêts et du bocage.
C'est-à-dire
quelques exemples. Bon, on a le rouge-gorge familier, on a le troglodyte, on a l'accenteur dont on a présenté tout à l'heure, on a le moineau domestique, on a une autre espèce, le moineau friqué, qui est un petit peu moins connu, qui est beaucoup plus rare, avec une petite tache noire sur la joue blanche. Rouge-gorge, je le présente pas. Troglodyte, c'est le petit oiseau qui est toujours en mouvement avec sa petite queue, qui est toujours en l'air, qui est très facile à reconnaître.
Un des petits oiseaux qu'on a
en Europe, ouais.
On a le pinson des arbres, qui est très connu du grand public, mais peu de gens arrivent finalement à le reconnaître. Qu'est-ce qui est caractéristique chez le pinson des arbres? Ce sont ces deux grosses taches blanches qu'il a sur les ailes. Le mâle est généralement assez coloré. Mais plus terne l'hiver. C'était l'une des espèces.
On cherchait. C'était un bon exemple.
Donc un petit peu rougeâtre quand même sur la gorge. Alors beaucoup de gens pensent que c'est un rouge-gorge un peu plus gros. Quand on se connaît pas très bien quand même, on peut se tromper. Ouais. Non, c'est vraiment le pinson avec vraiment du blanc sur les ailes. Une autre espèce, on a le pinson du Nord, voilà. Qui va, comme son nom l'indique, vient du Grand Nord, qui est quand même beaucoup plus rare dans les jardins. Il ressemble un petit peu au pinson des arbres, la seule différence qu'il est un petit peu plus bariolé. Donc plus bariolé, ça veut dire quoi? C'est qu'il a plus de barres blanches, marron, noires sur les ailes et sur le devant du corps. On a le grimpro des jardins, qui est quand même une espèce qui est très très caractéristique, qui a l'une de ces rares espèces d'oiseaux qui a deux ongles en avant, deux ongles en arrière, qui lui permet d'escalader les troncs, et notamment de commencer à la base du tronc et de faire le tour des troncs de bas en haut. Arrivé aux premières grosses branches, le grimpro va aller sur l'arbre d'à côté et va recommencer son périple.
Il faut quand même des arbres assez grands dans le jardin pour avoir...
Il faut des arbres assez grands et il faut surtout des arbres avec des écorces qui sont rudes. Pourquoi? Parce que le grimpro a un petit bec qui est très très fin, qui est un peu recourbé et qui va vraiment enfoncer son bec dans les entailles de l'écorce, ça se dit pour réussir à se nourrir de tout ce qui est coléoptères, des araignées, des petites bêtes qui vivent dans l'écorce. Une espèce qui est proche, c'est la citelle. Citelle qui est très très belle. Bleu au-dessus, orange en dessous, on fait simple. Qui, comme le grimpro, a deux ongles en avant, deux ongles en arrière. Mais la différence du grimpro, c'est que la citelle est capable de descendre les arbres de bas en haut, mais la tête en bas. Donc ça, c'est quand même une sacrée caractéristique. On a les mésanges, donc on a trois espèces de mésanges qui sont communes dans le jardin, deux qui sont quasiment dans tous les jardins, c'est la mésange charbonnière et la mésange bleue. La mésange charbonnière, comme son nom l'indique, charbonnière, la tête est noire avec la grande joue blanche. Chez la mésange bleue, la calotte, c'est-à-dire le dessus de la tête, est bleue.
Et plus petite,
mais souvent plus agressive aux mangeoires que la mésange charbonnière.
Et elle n'a pas de noir sur son plumage.
Elle n'a pas de noir du tout sur son plumage. Alors après, on a d'autres espèces de
mésanges.
La troisième espèce qui est un petit peu plus rare, pardon, c'est la mésange à longue queue. Donc, qui est pour le coup le plus petit oiseau d'Europe, mais qui a une queue qui est démesurément longue par rapport à son corps. Et du coup, c'est vraiment le plus petit oiseau d'Europe. Hein.
Ah, je pensais que c'était le roitelet.
Encore plus petit que le roitelet. Mais généralement, la taille de l'oiseau, c'est du bec au bout de la queue.
Ça dépend ce qu'on mesure. Hein.
Voilà.
C'est comme la célèbre phrase.
Et forcément, chez la mésange à longue queue, vu qu'elle a une queue qui est très très longue, c'est un oiseau qui est relativement grand. Et quand on voit que le corps, c'est vraiment minuscule.
C'est l'un des oiseaux les plus bêtes.
C'est l'un des oiseaux les plus sympathiques, je trouve, qui existent. C'est vraiment un oiseau qui a pas peur de l'homme et qui va lancer des
oui.
J'ai écorché. C'est ça, un tueur.
Ouais,
et c'est vraiment un super oiseau. À côté de ça, on a d'autres mésanges, alors qui sont beaucoup plus rares, ça va être la mésange noire, la mésange boréale, la mésange nonnette et la mésange huppée. Là, c'est vraiment plutôt si vous habitez du côté de Cassel, à proximité des grands bois, et on les trouve rarement dans les jardins, ils sont quand même plutôt forestiers. On a le piquet-pêche. Piquet-pêche, pivert, on fait souvent pas la distinction entre les deux. Le pivert est vert avec souvent du rouge sur la tête. Le piquet-pêche aura du rouge, mais uniquement sur le dessous de la queue et parfois un petit peu sur le dessus de la tête, mais beaucoup moins que le pivert. Mais le piquet-pêche est vraiment noir et blanc sur le reste du corps. Il n'y a pas du tout de vert, donc ça c'est caractéristique.
Croupion rouge aussi pour la...
J'ai déjà eu un piquet-pêchette dans mon jardin il y a quelques années.
Donc pic et pêchette, comme son nom l'indique, c'est un petit pic et pêche. Et la différence du pic et pêche, c'est qu'il n'a pas du tout de rouge sur la tête. Alors, il est vraiment blanc et noir.
La taille d'un moineau.
Il n'y a pas le croupion rouge aussi ?
Le dessous du croupion.
Le dessous du croupion.
Donc c'est près de la queue. On a le pigeon ramier, tout le monde connaît, la tourterelle turque aussi. Ce sont des oiseaux qui sont quand même très connus du grand public, comme la pie, le merle noir. La grive musicienne, alors c'est quand même assez bien connu du grand public, mais elle est quand même souvent, la distinction, elle ressemble un peu à la merlette, donc à la femelle du merle, mais elle a des petites taches sur le ventre. Les tourneaux, qu'on confond souvent avec le merle, mais qui est quand même souvent plus petit, beaucoup plus dressé, souvent en groupe, alors que le merle va sauter, les tourneaux va marcher, et les tourneaux ont souvent
des nuances métalliques au niveau du plumage.
Qui sont assez caractéristiques. Le tourneau est souvent en bande, alors que le merle est souvent solitaire. Et ce qui est marrant de voir, c'est quand vous mettez une pomme, par exemple, dans le jardin, les tourneaux auront la main sur la femelle de merle, mais c'est le mâle de merle qui aura la main sur les tourneaux. Donc c'est marrant aussi de voir les relations entre espèces. Il y a vraiment des belles études à faire quand on donne à manger aux oiseaux. On a le chouka des tours, qui est quand même relativement rare dans les jardins, mais qu'on va souvent voir si vous avez des grands arbres un petit peu à l'abri, un petit peu protégés. Et encore trois espèces qui sont quand même assez courantes, mais peut-être un peu plus rares aux mangeoires pour les deux premières, que sont le chardonneret et la linotte. Une troisième espèce, le verdier, qui lui va être beaucoup plus courant dans les mangeoires. Donc le chardonneret, caractéristique, c'est le jeune sur les ailes et la petite tache rouge au-dessus de la tête. La linotte, c'est un oiseau, on a du mal à expliquer. Il n'y a rien vraiment de très caractéristique. Surtout l'hiver.
Surtout l'hiver. Au printemps, il a le front
rougeâtre, mais ça se voit pas toujours très très bien. La linotte, c'est vraiment l'oiseau qu'on ne connaît pas. Alors, on a de la chance, on le voit rarement posé. De toute façon, c'est vraiment un oiseau qu'on voit souvent en couple ou en famille. Ils vont passer au-dessus en lançant des petits cris. C'est très beau, hein. Tête de linotte, c'est bien connu. Alors pourquoi tête de linotte? Parce que la femelle, le mâle construit plusieurs nids. La femelle pond dans un de ses nids et très souvent, comme c'est pas vraiment des oiseaux qui ont des territoires à proprement parler. Ils vont voler au-dessus de la campagne. Ils ont apparemment vraiment même pas besoin de vraiment couver les œufs comme la plupart des autres espèces. Mais la femelle se tromperait souvent d'endroit où elle aurait pondu les œufs. Bon, c'est ce qu'on dit, hein, c'est peut-être de lunettes. Et le verdier, il est, comme son nom l'indique, il est vert jaunâtre, très très gros, avec un très très gros bec, et qui est quand même assez caractéristique.
Ça, c'était donc pour les jardins. On va revenir...
Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Il peut y avoir des passages de grives licorne et grives mauvies dans les jardins. Bon, ça, c'est des oiseaux migrateurs. Ils viennent des régions plus au nord. Et ils peuvent faire des stationnements, surtout si vous avez quelques fruitiers, quoi. Pommiers, poiriers.
Alors, on peut voir d'autres espèces, c'est vrai, comme la bécasse. La bécasse du bois, c'est pas impossible qu'elle se pose des fois dans les jardins.
Ça m'est arrivé à Nevers, en 2006-2007.
C'est assez rude, ouais. Ça arrive assez fréquemment. J'en ai quasiment tous les ans aussi qui stationnent, enfin, qui s'arrêtent plutôt une journée.
Le roitelet, on n'a pas parlé du roitelet, je crois.
On n'a pas parlé du roitelet, non.
On le voit souvent dans mon jardin aussi.
Roitelet épais. Vraiment tout petit. Toujours en mouvement aussi. Surtout si vous avez des conifères. Il aime bien les conifères. Et il lance des cris qui sont quasiment inaudibles, très très aigus. Bon, c'est vraiment qu'une présentation des espèces les plus communes. Hein. Je dis, si vous pouvez avoir à peu près 120 espèces, on peut parfois, j'ai déjà eu des mouettes rieuses qui venaient se nourrir dans les mangeurs aussi. Donc c'est vraiment, on peut vraiment avoir un petit peu de tout.
Alors, on revient à ce que tu avais procédé par élimination. On va revenir
aux autres oiseaux.
D'accord. Dans l'autre milieu que le jardin.
Alors, dans les champs, on va commencer avec les champs, hein. On a beaucoup d'oiseaux, mais généralement on ne les voit pas. Alors pourquoi ? Bah, déjà les champs sont couvrent de très très grandes surfaces. Les oiseaux qu'on voit l'hiver dans les champs sont souvent mimétiques, c'est-à-dire ils ont vraiment la même couleur. On a souvent des oiseaux qui ont formé de très très grandes bandes. Ça peut être plusieurs centaines, voire milliers d'individus. Alors on aura quoi ? On aura l'alouette des champs, on aura le pipite, on aura les perdrix, on aura les grives. Les grives aiment bien se nourrir notamment sur les champs de maïs ou les champs de, enfin les champs qui sont abandonnés.
Les chaumes.
Surtout dans les chaumes, voilà. Donc les chaumes qui sont très intéressants. On aura beaucoup d'oiseaux comme les bruants jaunes, les bruants proyés, auxquels vont pouvoir parfois s'ajouter des verdiers, des linottes, des chardonnerets, des pinsons, notamment le pinson du Nord. On aura le pigeon ramier, évidemment, qui est très courant dans les champs. Les corneilles, les choucas, les corbeaux freux, tout ce qui est laridé, c'est-à-dire mouettes et goélands. Donc on a quand même énormément d'espèces.
Et le vanneau.
Et le vanneau IP, évidemment.
Ah ben voilà.
Et le pluvier doré.
Et le pluvier doré, donc qui sont des oiseaux qu'on va trouver souvent en bandes mixtes, et qui peuvent vraiment former des bandes de milliers d'individus.
Radio Alain Spiegel, 91.8, puisque nous sommes dans les champs, on écoute Petite Sirène.
Pleure pas, petite sirène, la ville dort encore. Ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. Ce matin est si clair, ce silence si doux. Des paroles d'hommes flottent dans l'air, tout le monde a rendez-vous. La nuit est passée tout entière, creusée sur nos joues. Tu déchires tout d'un trait de lumière et c'est la vie tout à coup. La vie tout à coup, pleure pas, petite sirène, la ville dort encore. Ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. Ça se voit que tu viens de chez les anges, t'es belle comme tout. Ça se voit que nos manières te dérangent et ces lumières partout. Tous ces fantômes qui te touchent, ces mains qui te secouent. Cette bouffée d'air froid dans ta bouche, c'est la vie tout à coup. La vie tout à coup, pleure pas, petite sirène, la ville dort encore. Ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. Voilà que tu viens comme une reine juste à la pointe du jour, avec dans son écho de porcelaine ton appel au secours. Comme un signal pour que s'égrène ce temps qui s'enfuit à son tour. D'abord les heures, les jours, les semaines et puis les années d'amour. Les années d'amour, pleure pas, petite sirène, la ville dort encore, ton histoire commence à peine. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines. petite sirène. Pleure pas, petite sirène, le jour attend dehors, dans les brumes des fontaines.
Francis Cabrel avec La Petite Sirène, 1989. Les oiseaux en hiver, nous en étions à évoquer ce que nous pourrions rencontrer ou que nous rencontrons dans les champs. Autre lieu, les zones humides.
Là, c'est beaucoup plus dur pour les voir. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on a, enfin, on a quand même une activité cynégétique qui est quand même la chasse au gibier qui est quand même assez développée en... dans le nord de la France, contrairement en Belgique, et donc on a beaucoup de zones humides qui sont, on va dire, paralysées entre guillemets à cause de la chasse. Donc on voit très peu d'oiseaux d'eau comme des canards, comme des oies, sauf dans les sites qui sont finalement non chassés. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est canard. Donc on a l'hiver des contingents canards qui viennent du nord, comme le canard siffleur, le canard pilé, la sarcelle d'hiver, le canard souché, le canard chipot, les fuligules milouin, morillon. Enfin, vraiment beaucoup d'espèces de canards qui sont généralement, enfin qui peuvent généralement se tous vivent dans le même plan d'eau, c'est pas oui. Difficile de voir 10, 12 espèces de canards d'une seule fois. À ça, on a les cygnes tuberculés. On a parfois les oiseaux, les cygnes très très rares qui viennent du Grand Nord, comme le cygne chanteur et le cygne de Bewick. On a les oies, donc l'oie cendrée qui va passer en migration, qui commence à passer. Mais quand on a vraiment des très très grands coups de froid, quand l'Isère déborde et gelée, on peut avoir des oies rieuses, on peut avoir des oies des moissons. Mais là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus rare. Et donc, ça nous... on en arrive justement à parler des... où aller observer les oiseaux en hiver, ici dans le Dunkerquois. Thierry ?
Alors, comme tu disais, c'est notamment dans les zones protégées. Alors, on peut citer le lac d'Ambourg-Scapel, le lac du Puiteau, qui devient de plus en plus intéressant. Plus sur le littoral, il y a le lac de Tétégam, mais bon, il est difficilement accessible. On peut citer notamment le lac des Mouères. Qu'est-ce qu'il y a encore
Côté belge, oui.
Pardon ?
Côté belge.
Côté belge, on ne peut que vous convier à aller au Blancart, donc voilà. La réserve naturelle du Blancart près de Dixmude. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, pour tout ce qui est oiseaux d'eau, on a quand même une réserve dont on ne parle jamais, c'est le milieu marin, où là on a des milliers d'individus de toutes les espèces quasiment qui vivent, qui sont
puis
vraiment liés
au platidois.
Et évidemment, donc il y a après tous les oiseaux des vasières avec énormément de limicoles. Donc là on n'aura pas tout à fait les mêmes espèces, mais on a effectivement le platidois, et en Belgique vous avez la baie de l'Isère à Nieuport. Après, si vous voulez voir les oiseaux des bois, moi, j'ai envie de dire que ça c'est simple, hein. Il faut aller dans les bois, c'est assez facile. Le plus simple, c'est de les chercher en lisière de bois. Et généralement, dans les lisières ensoleillées au sud, j'ai envie de dire, vous restez dans un parc urbain ou dans votre jardin, vous allez quasiment voir autant d'espèces. Il y a très peu vraiment d'espèces typiquement des milieux boisés qu'on peut voir. Forestiers, surtout quand on débute, quand on a l'habitude, ouais, on sait que le petit... Qui vient du sapin, c'est pas une mésange ordinaire. On sait que c'est peut-être la mésange de natou boréale, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même des oiseaux qu'on voit rarement, je trouve. Donc, ça peut se balader en plein hiver dans les bois. Ça peut être un peu désespérant d'un point de vue observation ornithologique, parce qu'on peut avoir l'impression de voir très peu de choses.
Puis il y a un nouveau milieu qui vient d'être inauguré il y a peu de temps, c'est les M Saint-Paul à Gravelines. Vers la centrale nucléaire, une zone humide qui a été aménagée, donc là on risque de voir notamment des canards et aussi des limicoles, si tout va bien.
Faut l'espérer.
Voilà, puis comme tu disais aussi, en mer, hein, y a pas mal de stationnements ou de passages. bon, de passage chez actuellement, mais il y a aussi des oiseaux qui stationnent. Il y a souvent énormément de grèbes huppées ou d'autres espèces de grèbes qui passent une bonne partie de l'hiver en mer au large. Bon, on peut les voir à la jumelle, il vaut mieux avoir une longue vue, mais bon, c'est à certains endroits, c'est facilement observable. Les plongeons également, qui peuvent rester un certain temps en mer. Quoi d'autre?
Les macreuses.
Les macreuses,
ouais. Les fous de bassin. On peut avoir tout ce qui est alcidé, donc ça va être tout ce qui va être guillemot de Troil, les pingouins tordas. Mais là,
le problème avec de temps en temps,
c'est vraiment rare. Le problème avec ces oiseaux-là, c'est qu'ils sont souvent quand même à 500 mètres du rivage, et à 500 mètres à l'œil nu, on les voit quasiment pas. Donc où il faut se mettre sur une avancée, la digue du Clipon, qui est malheureusement interdite d'accès maintenant, mais la digue de Saint-Paul par exemple, très très bien. Ou la digue de Grand Fort Philippe, ou avoir une bonne paire de jumelles ou une longue vue, et de préférence du coup sur des points hauts du littoral pour avoir une belle vue plongeante sur le milieu marin.
Et puis ce que vous pouvez faire aussi, je ne sais pas s'il est temps d'en parler, mais de participer à des sorties nature organisées par certaines associations qui vont vous montrer des endroits où on peut voir des oiseaux et puis vous aider à les reconnaître.
Oui.
Oui.
C'est le moment.
C'est le moment, par exemple.
Je pense notamment à une sortie qui aura lieu le dimanche 20 octobre, qui a pour titre « Vol direct et onduleux ». C'est en fait l'observation des passereaux en migration active au-dessus de la dune du Perroquet. Donc le rendez-vous aura lieu à 9h, digue de mer à l'extrémité est de Bredune. Et c'est une sortie qui est organisée par le groupe ornithologique et naturalisme du Nord-Pas-de-Calais, section Flandre-Maritime.
Et si vous voulez découvrir la migration, c'est vraiment l'une des sorties que je vous invite le plus à faire. Vous restez 2 heures et vous voyez des milliers, voire des dizaines de milliers de pinsons, des tourneaux, avec parfois des espèces beaucoup plus rares. Et c'est vraiment intéressant.
Radio Allen Spiegel, 91.8. On n'arrive pas tout à fait, mais au terme de l'émission, et on va écouter un morceau que vous allez reconnaître aussi.
I didn't mean to treat you so bad. You shouldn't take it so personal. To make you so sad, you just happen to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friends and smile, I thought it was that well understood that you'd be coming back in a little while. Know that you were saying goodbye for good. Sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. Couldn't see what you could show me. Your scarf had kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me, but you said you knew me, and I believed. And when you whispered in my ear and asked me if I was living with you or her, I didn't realize just what I
connected here. I didn't realize how young you were. Oh, sooner or later, one of us must know that you're just doing what you're supposed to do. Try to get close to you. I couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. See where we were going, but you said you knew when I took your word, and then you told me later as I apologized that you were just kidding me, you weren't really from the farm. And I told you as you clawed out my eyes that I never really meant to do you any harm.
Alors ça ressemble à du Dylan, mais c'est effectivement du Dylan. La voix aussi peut y ressembler, mais par contre là c'est Mike Hucknall, hein, le chanteur de Simply Red, pour une reprise de One of Us Must Know de Bob Dylan, donc en 2012. Radio Landspiegel 91.8 FM, nous avons évoqué jusqu'à présent les oiseaux en hiver. On peut considérer que c'est terminé et on va vous présenter quelques actualités, dont notamment dimanche prochain à salle de la briqueterie à Wormhout entre 10h et 18h. Ça s'intitule la fête de la Flandre verdoyante et fleurie, où on retrouve des produits naturels, des expos de légumes, des associations de jardiniers, du matériel de jardinage, enfin tout pour l'individu faire ce qu'il faut dans les jardins.
Avec une thématique spéciale jardin et compost cette année, je pense.
Ah, jardin et compost. Mmh. Il faut aussi vous rappeler une autre manifestation qui s'appelle Plantons le décor, hein, mais ça qu'on retrouve chaque année avec le Pays des Moulins et Isérouk. En fait, c'est pour que vous puissiez commander vos futures
des plans,
plantations d'hiver.
Voilà, surtout des plants d'espèces locales, hein, soit des arbustes, des arbres ou des fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, etc., mais d'essence locale. Cultivé par des arboriculteurs de la région de Pas-de-Calais. Et à des prix
défiant toute concurrence.
Et avec des reprises importantes, moi j'ai jamais eu de soucis avec mes plantations.
Tant mieux.
Autre manifestation, le Festival de l'Arbre. Alors là, c'est une manifestation qui s'étale sur une semaine, pratiquement entre le 23 et le 29 novembre. Hein, donc, juste à l'époque limite la Sainte-Catherine, là, où tout arbre planté prend racine. Donc, Festival de l'Arbre, cette année, c'est principalement le rôle de la haie qui va servir de thème, avec parmi nous un intervenant, hein, Barthes, je crois que... Rappelle-nous la conférence que tu vas assurer.
Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est le jeudi 28 à 20h. 28 novembre au Salon Blanc, donc à la mairie de Berg, où là je vais présenter avec Christelle Delbecq, donc technicien environnement du Pays des Moulins, le rôle des haies anciennes et actuelles, avec notamment une analyse de vieilles photographies, voir quelles sont les modifications paysagères de nos, enfin, quelles sont les modifications des haies dans le paysage et qu'est-ce que ça a pu induire comme conséquence. Donc moi notamment d'un point de vue biodiversité et Christophe parlera plutôt d'environnement et notamment des paysages.
Donc ça c'est à Berg, à la mairie de Berg.
La mairie de Berg, donc le jeudi 28 novembre à partir de 20h.
Bon, vous pouvez trouver plus amples renseignements selon la formule consacrée maintenant hein, sur le site internet. Alors tout lié paysdesmoulinsdeflandre.com.fr.
Voilà, et on devrait bientôt avoir, je pense, un petit dépliant A4, enfin ou A5 recto verso, enfin un petit dépliant très sympa que vous devriez pouvoir trouver dans les mairies, offices de tourisme et lieux de vie, je pense, du territoire, avec l'ensemble du programme.
Mais la vie continue, il y a encore d'autres manifestations?
Oui, enfin, plus proche de nous au niveau temps, là, il y a deux chantiers nature qui auront lieu le week-end prochain. Le 12 octobre, samedi, il y a un chantier nature qui aura lieu avec l'association Happy Nord et les Blongios à Bierne, au niveau du rucher communautaire de Bierne, c'est-à-dire en face du cimetière de Berg. C'est pour une gestion de roselières, fauche de roselières et exportation pour favoriser les milieux humides et les espèces associées.
Et tu peux nous rappeler les Blongios?
Ah, les Blongios, c'est une association régionale, région Nord-Pas-de-Calais, qui a pour but de faire des chantiers nature partout dans la région et même en France et en Europe. Hein. Il y a des chantiers qui ont lieu régulièrement en Camargue ou en Seine-Maritime, en Belgique également, parfois en Angleterre. Donc il suffit d'adhérer à l'association et on peut faire des chantiers soit de journée comme ce jour-là, soit week-end ou semaine. Et le deuxième chantier aura lieu, Bart pourra peut-être t'en dire un mot, au CPIE Flandre-Maritime. Là ça dure normalement 2 jours, le 12 et le 13, ou ça sera peut-être un jour selon les inscriptions.
Donc ce sera que le 12.
Ah bon, d'accord. Donc maintenant c'est officiel.
Que le 12, et ce sera essentiellement donc pour creuser une mare dans un jardin partagé sur Zuidkot.
Voilà, donc ça se passe à Zuidkot, l'adresse c'est... Il faut s'inscrire peut-être.
Il faut s'inscrire également, oui. Donc c'est dommage que les deux chantiers ont lieu le même jour, malheureusement.
Voilà, à vous de faire le choix.
Bien, c'était l'émission Le Cri du Kevit. Merci Bart, merci Thierry, merci Lydie à la technique.
Merci à vous.
Voilà.
Merci Michel pour cet été qui se prolonge grâce à l'été de Saint-Michel.
Voilà. Ah, ça, bon, alors Michel va rougir. Bon, et puis moi, il faut que je fasse une petite dédicace personnelle pour remercier celle à qui je pense, qui m'a permis de pouvoir faire une programmation variété française ce soir. Donc, je vous dis à la prochaine pour une émission le 2 décembre, dont on peut annoncer le thème.
Les arbres en bois.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.